Le Grand Débat avec Francis Laloupo.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Débat, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20, heure de Paris. Vous le savez, le Grand Débat, c'est chaque jour du lundi au jeudi. L'actualité internationale commentée, analysée et débattue sur la radio africaine. Un numéro de téléphone pour nous joindre, vous le connaissez, on va vous le rappeler, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Bien sûr, vous pouvez intervenir comme d'habitude en direct sur notre page Facebook, facebook.com/legranddebat.
Africa numéro 1, le Grand Débat, Francis Laloupo.
Le Grand Débat aujourd'hui au Cameroun, le spectre de la guerre civile. Alors que le Camerounais s'apprête à se rendre aux urnes le 7 octobre prochain pour élire un président, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest d'expression anglophone sont toujours en proie à une crise qui se transforme un peu plus chaque jour en un affrontement soutenu entre des groupes séparatistes armés et les forces de sécurité. Dans ce contexte, certains acteurs politiques sont accusés de dérives tribalistes et de manipulation ethnique. À qui profite donc cette instrumentalisation des questions ethnique, quel peut être l'impact de la crise dite anglophone sur le processus électoral, quelles sont les véritables sources des tensions identitaires et sécuritaires auxquelles le pays se trouve confronté actuellement. Le Cameroun a-t-il réellement soldé les comptes d'un passé marqué notamment par les traumatismes de la guerre civile des années 60? Nous en parlerons avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio.
Africa numéro 1, le Grand Débat.
On trouve également le Grand Débat sur facebook.com/legranddebat. Comme chaque jour, nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale, bien sûr, à ceux qui nous écoutent à Berlin, à Lubumbashi, à Gao, à Washington DC, à Édimbourg ou encore à Montréal. Bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va en citer quelques-uns. Sa Majesté, hein, c'est écrit comme ça. Woto Minga Cédric, c'est son nom. Yaku Saku Tendano, Steven Hardy Balanza, Fulbi Bonheur Oloui, Parfait Nyanguta Boulende, Taoa Rai Abraham Nassi Fay, Mae Nitsoa Gualdi, ils sont étranges avec les pseudonymes aujourd'hui. Souman Guru Kanté également, Moïse Aboubakar et Adj Larbi qui ont rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/legranddebat. Merci à vous et bien sûr, toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi.
Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaire. Le Grand Débat sur Africa numéro 1.
Les Camerounais peuvent-ils se rendre aux urnes sereinement le 7 octobre prochain alors que le contexte sécuritaire est devenu depuis plusieurs mois particulièrement préoccupant? Que nous dit donc la crise dite anglophone sur les relations intercommunautaires dans ce pays? Faut-il craindre une extension des violences armées au-delà des zones dites anglophones? Nous en parlons avec nos invités dans ce Grand Débat. Nous recevons Patrice Nganang. Bonsoir.
Bonsoir Francis.
Patrice Ganang, vous êtes écrivain, professeur de littérature à l'Université d'État de New York et vous avez publié « Empreinte de crabe » qui vient donc de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous avez également publié par ailleurs « La révolte anglophone, essai de liberté de prison et d'exil » paru chez Théam Éditions. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres quand même à ce jour.
Hein. Ah oui.
Bon, professeur Ange Bergson Lenja Nyamzoué est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur en sciences politiques et en philosophie. Vous êtes l'auteur de les Babichois, parenté, chefferie et résistance aux Allemands dans le sud-est Bamileke, aux éditions L'Harmattan. Et vous avez également publié, j'ai l'ouvrage ici, Identité et primauté d'autrui, la philosophie merleau-pontienne de l'hospitalité, aux éditions L'Harmattan.
Merci. Oui, c'est le quatrième.
C'est le quatrième, voilà. Merci d'être avec nous. Il y a des écrivains prolifiques ici, en tout cas, on le voit bien. Au téléphone avec nous, Albert Moutoudou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'UPC Manidem, l'Union des Populations du Cameroun. Vous êtes membre de l'Amicale panafricaine. Vous avez publié, vous êtes le co-auteur de Cameroun, l'indépendance, Cameroun avec K, l'indépendance piégée de la lutte de libération à la lutte contre le colonialisme aux éditions L'Harmattan. Merci d'être avec nous. Vous êtes au Cameroun, je crois, hein.
Oui, je suis à Douala.
Vous êtes à Douala, d'accord. Patrick Galang, alors, dans votre roman, vous revenez sur cette guerre civile qui a secoué le Cameroun de 1960 à 70. Alors, est-ce qu'il faut convoquer l'histoire de cette guerre pour comprendre la crise qui secoue votre pays aujourd'hui, en l'occurrence ce qu'on appelle la crise anglophone?
Bon, déjà, ce n'est pas une question d'analyse, je crois, parce que Étant donné que je travaille avec toutes les plateformes amazoniennes et anglophones qui sont impliquées dans cette crise du point de vue de la résistance, mais aussi du point de vue de la défense de leurs droits, je pense qu'il y a un intérêt spécifique qui se manifeste de leur point de vue, de savoir un peu plus sur, d'avoir des détails sur ce qui s'est passé entre 60 et 70. Je vais d'ailleurs commencer par celui qui a inventé le mot Ambazonie.
C'est ça.
Gorji Dinka, n'est-ce pas, que j'ai rencontré à Londres, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires. Eh bien, il était.
Alors, il faut préciser aux auditeurs que l'Ambazonie, c'est le nom qu'aujourd'hui les séparatistes donnent à cette région anglophone du Cameroun. Hein.
Voilà, c'est vrai que je préférais que l'on dise autonomiste. N'est-ce pas, ou bien restauratiste et pas séparatiste.
Et pas séparatiste. Que,
voilà, voilà.
Ne, vous ne voulez pas sécessionniste non plus.
Non.
Irrédentiste non plus.
Ah non, oui. Bon, en fait, je préfère le mot qu'ils utilisent eux-mêmes.
Oui.
C'est-à-dire, ils sont restauratistes, ils sont autonomistes.
D'accord.
Ils sont restauratistes.
Autonomistes.
Voilà.
D'accord.
Et donc, Gorji Dinka était l'avocat d'Ernest Wandji. Déjà, donc, il y a une continuité véritable entre acteurs même. Immédiat de la crise de 60-70, c'est-à-dire la guerre civile de 60-70 qui avait lieu dans l'espace bamileke, surtout et dans le littoral, et la crise anglophone parce que l'avocat d'Ernest Wandji, vraiment, c'était Gorji Dinka qui, par la suite, est le maître, est la tête pensante, disons, de ce qui se passe dans la zone anglophone et qui est d'ailleurs très impliqué parce que jusqu'à présent, il est très impliqué, il vit en exil, l'un des premiers bâtonniers du Cameroun. Il vit en exil, il a fait la prison lui-même, etc. C'est un destin tragique, mais aussi un destin de combattant. Donc, je veux dire, du point de vue des anglophones eux-mêmes, ils aimeraient savoir, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une continuité entre personnages, du point de vue de, c'est-à-dire de, quand on regarde ceux qui sont en fait en face d'eux. Je voulais d'ailleurs dire leurs ennemis, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Il y a une continuité. Biya était le secrétaire général, président de la République, lorsque Wandji a été exécuté. Les méthodes qui sont mises en branle, c'est-à-dire les razzias, c'est-à-dire les coupements de tête, c'est-à-dire les exécutions sommaires, enlèvements, et même surtout le transport des prisonniers de la zone des conflits qui est anglophone à la zone francophone. Ce sont des méthodes qui étaient déjà mises en branle durant la guerre civile.
D'accord.
Et évidemment, l'idéologie, c'est-à-dire que l'on présente la personne qui est camerounaise comme étant terroriste, alors que la personne exprime, et c'était le cas chez les anglophones, exprime au départ des besoins corporatistes, des besoins en fait qui sont citoyens.
Oui.
Et donc cette personne est automatiquement présentée comme terroriste et ensuite comme sécessionniste et puis comme Ambazozo. Donc l'escalation de la rhétorique et puis de la propagande. Comme quoi il y a un intérêt endogène chez les anglophones à comprendre cette continuité-là qui se passe devant eux.
Vous voulez dire qu'il y a des similitudes entre la gestion de cette crise aujourd'hui par les autorités camerounaises et la manière dont la guerre civile avait été gérée à l'époque par les autorités?
Oui, en effet. Voilà. Et j'insiste dessus surtout parce que les anglophones n'étaient pas encore partie prenante du Cameroun lorsque la guerre civile commençait
en 60.
Voilà. Donc, la guerre civile camerounaise de 60 a commencé comme bataille pour la libération du Cameroun des colons en 56.
C'était une guerre d'indépendance.
Voilà, c'était d'abord une guerre d'indépendance avant de devenir une guerre civile. Donc, les anglophones n'étaient pas encore partie prenante du Cameroun. Et donc, ils regardaient cette guerre-là comme étant, comme ayant lieu dans un pays étrangers. Et donc maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont un intérêt évident à comprendre ce qui se passe parce que les forces qui sont mobilisées contre eux sont les mêmes qui étaient mobilisées contre les Bamileke. Et surtout que la localisation des deux guerres fait même qu'il y ait un chevauchement. Par exemple, dans des villes comme Tombelle, comme Loum, ce sont des villes qui sont vraiment des villes charnières. Donc, il y a eu des massacres extraordinaires. Alors, Tombelle, à l'époque, en 62-66, il y a eu l'implication des populations dans des massacres. Et ces populations-là qui, parfois, n'est-ce pas, étaient aussi anglophones, ils se sont retrouvés aujourd'hui, n'est-ce pas, comme étant des ennemis.
D'accord.
Et encore une autre continuité, on dirait, de 55 à pratiquement 70, la partie anglophone du Cameroun était l'arrière-base des combattants. C'est-à-dire que Ernest Wandji, lorsqu'il est rentré au Cameroun, est passé par la partie anglophone pour rejoindre le maquis. Et de même, avant lui, en 55, mai 55, les Camerounais qui étaient pourchassés parce qu'ils étaient UPCistes se sont installés dans la partie anglophone à Bamenda, à Kumba. Et le directoire d'ailleurs de l'UPC en exil s'était d'abord installé à Kumba. C'est pourquoi on l'appelle le trio de Kumba, c'est-à-dire Moumié, Wandji, voilà, n'est-ce pas, et puis Kingé, les trois s'étaient installés à Koumaki à l'époque, bien sûr. 55 n'était pas encore partie prenante du Cameroun français.
Donc, quand vous écoutez, il y a très clairement une sorte de continuum quand même, je dirais, entre ce qui s'est passé dans les années 60 et ce qui se produit aujourd'hui.
Il y a une continuité au niveau des personnages, au niveau d'abord de la rhétorique, c'est-à-dire la propagande. Il y a une continuité au niveau des personnages des deux côtés.
La propagande, vous voulez dire des autorités officielles?
Voilà, du discours guerrier, d'accord, du pouvoir qui soudain estime que des populations peuvent être liquidées. Alors que les forces armées sont là pour protéger les vies. Donc, il y a cette continuité au niveau de la rhétorique, au niveau des personnages, des deux côtés, au niveau du chevauchement des lieux, au niveau des méthodes, des stratégies, des tactiques. Donc, c'est vraiment effrayant.
Patrice Nganang, dites-nous très clairement, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle séparatistes du côté du pouvoir et que vous appelez, vous, des autonomistes, est-ce qu'aujourd'hui, leur mouvement repose sur un socle de légitimité ou pas?
Oh, le socle de légitimité est indiscutable parce que, disons, déjà en 1919, le Cameroun avait tous les droits pour être un pays indépendant, étant donné que colonie qu'il était de l'Allemagne, n'est-ce pas? L'Allemagne a été vaincue par les puissances qui et a automatiquement perdu ses colonies, donc de facto le Cameroun était libre. Oui. Cependant, la Société des Nations qui est entrée en jeu, n'est-ce pas, a décidé maintenant de prendre en compte les colonies qui avaient été abandonnées.
Vous savez
par
qu'avec un tel discours comme celui que vous tenez, vous serez donc considéré, notamment par le porte-parole du gouvernement camerounais, comme complice en tout cas des séparatistes, on pourrait presque vous accuser d'atteinte à la sécurité de l'État.
Bon, ça ne me dérange pas parce que ce gouvernement-là m'a mis en prison et le porte-parole lui-même était.
Récemment.
Le porte-parole lui-même était dans la même prison pendant plusieurs années pour accusation de.
Monsieur Bakary Chiroma.
Voilà, de poutisme. Donc, c'est cette rhétorique-là qui a des conséquences carcérales. Le Cameroun la connaît et d'ailleurs, même le président du Sénat était lui-même en prison pour ces mêmes raisons, mis en prison par le même Biaké au pouvoir. Mmh. Comme quoi, cette rhétorique-là ne me fait pas peur parce que. Du point de vue d'un écrivain, d'ailleurs, je crois, nous avons appris à l'école avec Césaire, n'est-ce pas, que l'écrivain, c'est la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, de ceux qui sont enfermés dans le cachot du désespoir. L'écrivain est toujours le porte-parole des hérités. Donc, pour revenir sur la légitimité et puis même sur la légalité de la République fédérale d'Ambazonie, je crois qu'elle est indiscutable venant du fait que depuis 1919, l'ONU et avant elle, la Société des Nations, a abandonné.
Vous en parlez comme si c'était une réalité et pas une fiction de cette Ambazonie.
Non, mais ce n'est pas une fiction, étant donné que les gens meurent pour une partie de leur terre, n'est-ce pas? En fait, pour leurs droits et puis même pour leur existence. Et donc, les gens meurent de vrai. Donc, on ne devrait pas en parler comme si c'était une fiction. Et d'ailleurs, le Cameroun, avant 1884, n'existait pas du tout. Donc, il n'y a pas de raison que l'on croit que le Cameroun soit une réalité, parce que c'est une invention lui aussi.
Professeur Ange Bertrand Lendja Nyengzoué, est-ce que vous faites, vous aussi, un lien entre ce qui s'est produit dans votre pays, cette guerre civile des années 60, et ce qui se passe aujourd'hui dans les régions d'expression anglophone?
De toutes les façons, ce qui me paraît important, c'est d'intégrer l'histoire en temps long. Et le temps des années 60 est assez court pour expliquer la situation actuelle parce que ce serait simplifier une réalité qui est beaucoup plus complexe. Mon point de vue sera celui, n'est-ce pas, du sociologue et de la sociologie historique de l'État. Parce que si vous n'avez pas un pouvoir qui décide pour se faire obéir, vous n'avez pas un positionnement par rapport à l'obéissance ou à la désobéissance. Or, l'État du Cameroun ne naît pas avec la guerre civile de 1960. L'État du Cameroun naît beaucoup plus tôt, le 8 août 1914, où les premiers Camerounais, qui étaient d'ailleurs d'ethnies très différentes, n'est-ce pas, se trouvent confrontés à la logique de la violence du pouvoir. Je parle ceci à Martin Posama, je pense à Rodolphe Dolamangabel qui se sont fait Rodolphe Dolamangabel qui s'est fait pendre avec son secrétaire à Douala le même jour que monsieur Samba officier de l'armée allemande qui avait compris comme Martin Posama que le vent tournait. Rodolphe Dolamangabel demandait simplement d'arrêter, n'est-ce pas, l'expropriation des populations locales à Douala. Martin Posamba, officier de l'armée, s'était rebiffé contre la hiérarchie militaire en disant que les pratiques contre les Camerounais n'étaient pas acceptables. Donc, déjà, il y a un fait de violence d'État en 1914. Le problème avec la question anglophone, c'est quoi ? C'est que on prend l'histoire du Cameroun à partir de 1960, alors que la guerre civile elle-même commence le 13 juillet 1955, au sortir d'un conseil de ministres ici à Paris, où on décide que l'UPC est illégal. Mmh. Donc, si on ne comprend pas la dynamique...
L'UPC, c'est l'union des
populations, du Cameroun. Si on ne comprend pas la dynamique qui fait que l'UPC devienne, n'est-ce pas, un parti populaire, on ne comprendra pas après pourquoi la guerre civile arrive. Et si on ne comprend pas le lien entre l'UPC et, n'est-ce pas, le moment historique fondateur que je viens de vous, dont je viens de vous parler, on ne comprendra pas non plus pourquoi ce continuum-là peut, n'est-ce pas, comprendre des éléments de rupture qui permettent aussi de justifier la forme État au Cameroun et la forme société. Donc, si on part donc de la dynamique du temps long, on va dire que la guerre civile arrive au Cameroun. Pourquoi ? En 1955, parce que l'UPC a été créé le 10 avril 1948, mais derrière l'UPC, il y a un capital symbolique très important qui est celui, n'est-ce pas, de la montée en puissance des syndicats, qui est même celui de la politisation de la force syndicale. Oui. Parce que le moment fondateur de l'État moderne du Cameroun, parce que j'appelle 1914 un moment pré-nationaliste, le moment nationaliste qui pousse coquillon dans l'UPC, c'est les émeutes de Douala de 25 et 26 septembre 1945, où il y a eu 80 morts. N'est-ce pas? Il y a de très bons écrits de l'historien spécialiste de cette question-là, Richard Joseph, de Trinidad et Tobago. Il y a eu 80 morts, dont la femme du gouverneur français de la zone. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On rapatrie les fauteurs de troubles, c'est-à-dire les ségétistes français, oui, qui avaient appris aux Camerounais à faire des revendications sur la base de la promesse de De Gaulle, faite à la conférence de Brazzaville en 1944, de donner le même droit aux indigènes, de supprimer le régime de l'indigénat.
D'accord.
Donc, vous avez donc, en 1900... Je termine là-dessus en deux mots.
Parce que je dois vous interrompre dans quelques instants, on va devoir marquer une pause, mais je veux dire, ne soyez pas trop long, je dirais.
Non, c'est le temps long, c'est l'histoire du temps long.
C'est tout à fait passionnant.
C'est important.
Mais je vous demanderai je
fais le lien, parce que...
Ce rappel historique est important.
Est-ce qu'il
se produit aujourd'hui au Cameroun?
Vous n'avez pas les émeutes de Douala, que vous n'avez pas Oum Niobe. D'accord? Parce que Oum Niobe, il est le secrétaire général adjoint de cette confédération-là, qui revendique le même droit. Et c'est donc ce capital syndical-là qui est politisé le 10 avril 48 et fait de Oum Niobe un leader politique. Pourquoi ? Parce que le champ libre a été laissé par le retrait des nationalistes.
On verra dans quelques instants finalement comment l'État camerounais a été quand même, comment dire, s'est construit, je veux dire, au-delà de ces affrontements, au-delà de cette tension, de ces violences. Est-ce que cet État est une réalité ? Sur quel socle repose cet État ? Est-ce que cet État finalement n'est pas, je dirais, une construction, je dirais, immatérielle ou fictive tout simplement aux yeux de certains Camerounais ? On en parlera après la publicité. Gardez votre...
Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
Le spectre de la guerre civile au Cameroun, c'est le thème de ce grand débat. Nous en parlons avec nos invités, Patrice Ngalang, écrivain, professeur Ange Bergson, Lenja Niamzoué, docteur en sciences politiques et en philosophie. Et nous allons rejoindre dans quelques instants Albert Moutoudou, qui est avec nous au téléphone depuis Douala, président de l'UPC Manidem, c'est l'Union des populations du Cameroun, l'UPC qu'on a beaucoup évoqué depuis le début de l'émission. Mais Patrice Ngalang voulait réagir, peut-être rebondir sur le propos de Niamzoué. Mais on va vous donner la parole, ne vous inquiétez pas. C'est la règle du jeu. Je voulais juste faire
une incise. J'aimerais même dire qu'il y a une obligation éthique, n'est-ce pas, morale d'ailleurs, de comprendre le point de vue anglophone. Parce que lorsque Oum Niobe était assassiné, n'est-ce pas, et lorsque en mai 55, lorsque des centaines de milliers de pacifistes étaient zigouillés, etc., les anglophones ne faisaient pas partie du Cameroun, ils faisaient partie du Nigeria. Donc tout ce qu'ils racontent là, c'est vrai, c'est acceptable entièrement. Mais les anglophones de 1916 en fait, oui. Et concrètement de 1919, à 1961.
N'étaient pas concernés par ce qu'ils viennent de dire.
Pas du tout.
Pas cette histoire-là.
C'est pas vrai.
Ils étaient en dehors de cette histoire.
C'est pas vrai du tout.
Professeur Niamzoué.
C'est pas vrai du tout parce que ne serait-ce que la zone anglophone où la partie francophone, justement, n'avait pas accès, c'est vrai de base arrière, n'est-ce pas, à ces acteurs du pouvoir UPC, c'était là. Cela veut dire qu'il y avait un continuum un continuum, n'est-ce pas, idéologique et territorial.
Bon, j'aimerais quand même recalibrer.
Je termine, M. Ganam, je vous écoute gentiment.
Non, parce qu'il ne s'agit pas...
Je termine. J'ai commencé par poser un postulat clair. Pour moi, la question anglophone n'est pas à...
Il ne s'agit pas de se battre.
Non,
parce que
nous avions un État. J'ai dit que l'État camerounais s'est construit.
Ne vous interrompez pas, s'il vous plaît. L'un après l'autre, allez-y,
Professeur Yanzoué.
Et ensuite, Patrice Galang. Et on va retrouver Albert Moutoudou qui nous attend au téléphone.
Oui, mais je vous dis que l'histoire de la crise anglophone n'est pas séparable de l'histoire du Cameroun. C'est mon postulat de base.
Ok, très bien. Après, c'est là
que
je l'ai compris.
Voilà. Et donc, je dis, ne serait-ce que de manière informelle, d'accord, il y avait une continuité entre les acteurs anglophones et francophone. Avant l'indépendance de l'État du Cameroun oriental.
Alors que Patrick Galland dit, finalement, les anglophones n'étaient pas concernés, je dirais, par ce qui se passait au Cameroun en 1914.
C'est pas possible, ne serait-ce que parce que...
Le Southern Cameroons avait son gouvernement, avait son premier ministre, avec sa police.
N'était pas reconnu par l'ONU.
Non, c'est arrivé dans l'État fédéral.
Si on ne permet pas, au point de vue anglophone de s'exprimer, on ne comprendra jamais pourquoi.
Mais non, vous n'êtes pas. Si vous avez un porte-parole de.
Allez-y, Patrice.
Ben, je le suis d'ailleurs.
Voilà,
donc,
d'accord.
Très bien. Donc,
assumez. Mais je dis, ce que vous racontez vient à mes
Je l'assume, je suis le porte-parole, je suis l'ambassadeur des anglophones, etc. Je l'assume.
Bon, d'accord, donc, maintenant, je sais à qui je parle.
Donc, très bien, donc laissez-moi m'exprimer. Très bien. Dans ce cas, en tant qu'ambassadeur des anglophones, je dis que...
Les anglophones sécessionnistes.
Très bien, il y avait un gouvernement...
Qui ne représente même pas 10% des anglophones.
Allez-y,
Patrice Galang. Il y avait un gouvernement, Endélé, il y avait avant lui, après lui, il y avait Foncha, c'est-à-dire qu'il y avait des ministres, il y avait une police, il y avait une administration qui fonctionnait, il y avait une poste. N'est-ce pas? Il y avait des services qui étaient rendus, il y avait une éducation, un système éducatif, il y avait une constitution.
Mais au sein d'un État fédéral.
Mais c'est l'État, c'est après 61, c'est ce que vous racontez. C'est après 61.
Est-ce que je peux
c'est
au moins finir?
C'est après le 1er octobre 61.
On ne parlait pas d'un État indépendant reconnu par la communauté internationale, par l'ONU, là.
Est-ce qu'il est possible...
Juste pour préciser pour les auditeurs.
Non. Bah oui. À l'intérieur de l'État du Nigeria.
Ah oui.
Pas du Cameroun.
Ah oui.
Je parle bien de 1916... À 1961.
L'État du Nigeria date du 1er octobre 1961. D'accord ? L'État du Nigeria est indépendant le 1er octobre 1961. Ce que vous racontez ne peut pas concerner l'État du Nigeria.
Et l'État du Cameroun date de 1955 ?
L'État du Cameroun date de mai 1954. Non, de mai 1958 pour le gouvernement. Pour le Cameroun oriental a été indépendant. Le Cameroun oriental a été indépendant. Après les élections de 58, d'accord ?
Ah, c'est vrai, indépendant en 58, le Cameroun.
Pour une raison simple, la loi Gaston de Fer du 22 décembre 1956 prévoyait, monsieur Ganan, vous allez rigoler après, prévoyait une autonomie, une indépendance et une indépendance du gouvernement. C'était un régime parlementaire. Et pour vous dire, le gouvernement français n'avait plus le pouvoir de démettre le premier ministre de ses fonctions. C'est pourquoi d'ailleurs, le 16 février 1958, André Marie Bida n'a été démis que par un coup d'État.
Il a été démis par
un coup d'État interne du Parlement, par une motion de censure du Parlement, parce que la France ne pouvait pas le faire directement. On a utilisé la main de Aïdjo pour le faire.
Très bien.
D'accord ? Donc la France s'est servie de Aïdjo, mais c'était la souveraineté camerounaise qui s'appliquait déjà.
Dans le Cameroun francophone.
Alors on va se tourner vers Douala. Albert Moutoudou est avec nous au téléphone depuis Douala. Albert Moutoudou, vous nous entendez ?
C'est des faits d'histoire.
Oui, je vous écoute, oui.
Oui, alors d'abord, je vais vous demander un avis général sur ce que vous avez entendu, parce que vous avez vu, voilà, nous sommes là dans un débat fortement contradictoire. Quel est votre regard aujourd'hui sur cette crise ? Est-ce que, je vous pose la même question que celle que j'ai posée à nos invités ici présents en studio. Est-ce que vous établissez, vous, je dirais, un lien entre les comptes mal soldés de cette guerre civile des années 60 et ce qui se produit aujourd'hui dans les régions anglophones de votre pays ?
Oh, il n'y a pas de génération spontanée. Il y a toujours quelque chose qui est un facteur relevant de ce qui s'est passé pendant la guerre de libération au Cameroun. Bon, mais tout n'est pas, évidemment, lié. Il y a des choses qui sont tout à fait nouvelles et tout à fait autonomes de cette guerre de libération des années 50-60. Donc, c'est une réponse oui et non, bien entendu. Et je crois que cela, on va retrouver, pour le oui, on va retrouver des choses dans l'histoire. Pour le non, on va également retrouver des choses qui ne sont pas compatibles avec ce qui s'est passé dans les années 50 et 60.
Alors,
je voudrais dire,
oui, allez-y.
Si vous permettez, je voudrais dire d'abord que le mouvement nationaliste camerounais ne s'est pas créé que dans la partie francophone. Mmh. C'est-à-dire que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le mouvement nationaliste camerounais a émergé dans les deux parties. C'est seulement dans la partie francophone qu'il a pris une ampleur particulière avec l'Union des populations du Cameroun.
L'UPC.
Mais les militants nationalistes de la zone anglophone et les militants nationalistes de la zone francophone se sont retrouvés au moins à trois reprises. Deux fois à Koumba et une fois à Limbé. Limbé qui y était à l'époque Victoria. Mmh. Pour des grandes rencontres. Et dans ces grandes rencontres, l'objectif premier était la réunification du pays, c'est-à-dire la réunification du peuple camerounais tel qu'il était, tel qu'il vivait avant, pendant la colonisation allemande. Enfin, la colonisation, on appelle ça, les Allemands disaient que ce n'était pas la colonisation, c'était le protectorat. Voilà. Ces militants nationalistes avaient cela comme premier mot d'ordre.
Oui.
Et ils devaient se retrouver en 1952. Malheureusement, ils ne se sont pas retrouvés en 1952. C'est le congrès de l'UPC, le deuxième congrès de l'UPC qui a eu lieu, pour concrétiser cela par de très grandes déclarations.
Oui.
À savoir qu'ils veulent se retrouver unis dans un seul pays.
Oui.
Les militants nationalistes, dans le grand mouvement africain du nationalisme qui est amené aux indépendances. Les militants nationalistes des deux côtés de la zone dite anglophone comme de la zone dite francophone.
Oui.
Voilà. Donc, je tenais d'abord à dire cela. La deuxième chose, bon, qui peut aller dans le sens de la question que vous posez, c'est qu'il y a de commun et de très identifiable, facilement identifiable, dans la façon dont la crise actuelle est traitée par le pouvoir, c'est l'usage de la violence.
C'est ça.
Nous sommes ici en face d'une crise qui peut être résolu par la discussion, par le débat.
Mais pour cela, est-ce que les autorités camerounaises ont fait, je dirais, un bon diagnostic, un diagnostic juste de ce qui se produit dans ces régions aujourd'hui ?
Les autorités camerounaises sont un peu influencées, sont sous l'influence de leur maladie d'enfance.
C'est-à-dire ?
Les autorités camerounaises, l'armée camerounaise, ce sont des pouvoirs qui se sont créés, qui sont nés dans un contexte de guerre et qui ont grandi dans un contexte de guerre. Là où la discussion est possible, ils ne voient pas la discussion. Ils voient d'abord l'usage de la force. Donc, c'est la première erreur dans laquelle ils tombent systématiquement. Hein? C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous avez vu, avec le mouvement anglophone qui a commencé par des revendications corporatistes, les avocats, les enseignants, on a tiré tout simplement. Les étudiants à Boya, on a tiré tout simplement. On a arrêté pour, d'ailleurs, quelques mois après, relâcher des gens. Cela voulait dire qu'on reconnaît qu'on s'est trompé.
On s'est trompé et voilà.
On continue quand même dans la lancée de la force. Donc, s'il y a quelque chose qui peut être rapproché à ce qui s'est passé au début de la guerre de libération au Cameroun, c'est bien cet usage de la force aveugle.
C'est ça.
Alors que, en face, les gens demandent, ou ce qu'ils posent comme revendication, demandent tout simplement qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on dise, écoutez, ça c'est tout à fait faisable, ça l'est peut-être moins, ça c'est dans tel délai, etc. etc.
Mais ça, on s'en est beaucoup éloigné aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on en est évidemment à des affrontements armés entre ce que Patrice Nganang appelle les autonomistes et les forces de sécurité. Patrice Nganang, justement, comment dire, quand vous parlez tout à l'heure de restauration, que veulent restaurer précisément ceux qui aujourd'hui ont pris des armes et affrontent les forces de sécurité camerounaises?
Ils veulent restaurer un État qui existait. Ils veulent restaurer un État qui avait un gouvernement, qui avait un premier ministre, qui avait une fonctionnalité évidente, n'est-ce pas, qui avait des services qui étaient rendus et qui ne le sont plus. Il veut restaurer une...
Mais cette histoire a commencé, on le disait il y a quelques instants, par des revendications corporatistes ou catégorielles. Il ne s'agissait pas au départ de restaurer un État, au départ.
Oui, même la crise UPCiste a commencé par un incident, n'est-ce pas ? C'est-à-dire c'est un incident qui est toujours le déclencheur d'un mouvement et qui permet à l'histoire de se recomposer. Donc, la Révolution française n'a pas commencé par la Révolution française.
Vous voulez dire que ce qui se produit aujourd'hui couvait déjà
je l'ai déjà dit, depuis 1919, il y a eu une constitution qui était bien précise du fait que des Camerounais qui s'expriment en anglais se sont retrouvés dans une structure qui était étatique, qui avait son...
Alors, l'État unitaire dont on parle beaucoup au Cameroun, c'est une illusion. Donc.
Après, en 1919.
Oui, mais aujourd'hui, on en appelle encore à l'État unitaire. C'est le discours officiel aujourd'hui.
Monsieur Alopo, en 1919, il n'y a pas de Camerounais qui s'exprime en anglais. Pourquoi ? Parce que la zone anglophone est née uniquement de la conférence de Versailles de 1919 et les Français n'arrivent au Cameroun qu'en 1921, 1922, avec des Anglais qui, n'est-ce pas, occupe cette partie anglophone-là, rattachée et contrôlée depuis Lagos. Voilà le seul lien, c'est-à-dire que
c'était contrôlé depuis Lagos. Voilà. Là, on a une base.
Donc, il n'existait pas en 1919, il n'existait pas d'anglophone au Cameroun.
Donc, on peut commencer à parler. Ça veut donc dire que si le centre d'action de cet État anglophone, n'est-ce pas, de ce gouvernement anglophone dont je parle, de ce Southern Cameroun, c'était Lagos, on a donc une situation où on a un État qui était embryonnaire, tout comme l'État devenu francophone était embryonnaire, sous la situation coloniale.
Oui.
Et donc, cet État est devenu indépendant le 1er octobre 1961.
Oui.
Du moins, s'il y a eu un vote à l'ONU, n'est-ce pas? Et puis, la France a voté contre, oui, entraînant avec elle tous les... en fait, beaucoup d'États francophones, beaucoup de pays qui deviendraient francophones. Et donc, la date...
Alors, vous écoutez, concrètement, vous voulez dire que finalement, l'Ambazonie dont vous parlez, au fond, était une partie du Nigeria. Voilà. Donc, le Nigeria aurait été amputé de cette partie-là. Et c'est la restauration, selon vous, c'est la réintégration aujourd'hui
La restauration, c'est la reconnaissance de l'indépendance qui a eu lieu le 1er octobre 1961 et dans la constitution d'un État sur la base d'un vote qui a été floué. Et qui n'a pas été mené jusqu'au bout de ses conclusions.
Monsieur
parce que tous les États africains ont eu la chance, n'est-ce pas, qu'un vote ait eu lieu à l'ONU. Eh bien, le Southern Cameroun a eu cette chance-là. Et cependant, à la différence de... beaucoup d'autres États, il n'y a pas eu de conclusion. J'aimerais quand même préciser État est passé par le même scénario, c'est l'Érythrée.
Alors,
pas,
vous allez garder...
Où il y a eu un vote, oui, et ce vote n'a pas eu de conséquence.
Je ne sais pas si la comparaison...
indépendant.
Elle a peut-être des limites, cette comparaison. Mais on continue d'en parler. Professeur Yamzoué, on va marquer une pause à nouveau. C'est le chronomètre qui me l'impose.
Possible. Je vous dis que c'est faux ce qu'il raconte.
Ah ben, si c'est faux, vous allez préciser. Après la publicité, je vais revenir à vous juste après la pub. Ça dure 2 minutes, c'est pas très long. Nous recevons Patrice Galang qui vient de publier Empreinte de crabe aux éditions Jean-Claude Lattès. Je suis également accompagné du professeur Niemzoué, Ange Bergson Lenja Niemzoué, qui publie donc notamment Identité et primauté d'autrui aux éditions L'Harmattan. Et aussi, je vais citer votre autre ouvrage, Les Babichois, parenté, chefferie et résistance aux Allemands dans le sud-est Bamileke, aux éditions L'Harmattan. Nous sommes au téléphone avec Albert Moutoudou, qui est à Douala, qui est co-auteur de Cameroun, l'indépendance piégée de la lutte de libération à la lutte contre le néocolonialisme aux éditions L'Harmattan. Maintenant, on continue de parler de cette histoire forcément compliquée, hein, forcément complexe, après la publicité. À tout de suite.
Africa, le grand débat avec Francis Laloupo.
Le spectre de la guerre civile au Cameroun. Patrice Ganang est avec nous, qui vient de publier Empreinte de crabe aux éditions Jean-Claude Lattès. Ange Bergson Lenja Niemzoué, qui a publié notamment Les Babichois, parenté, chefferie et résistance aux Allemands dans le sud-est Bamileke aux éditions L'Harmattan, et Albert Moutoudou, président de l'UPC Manidem, Union des populations du Cameroun. Vous voulez intervenir rapidement? Alors, on va passer à un autre chapitre quand même, parce que je vais parler de la question ethnique qui revient aujourd'hui au cœur du débat politique camerounais. Ange Bergson Niemzoué.
Oui, d'un trait, le 1er octobre 1961, le référendum porte sur l'indépendance du Nigeria. Ce n'est pas une question onusienne. C'est l'ONU qui organise les mécanismes de sortie de la phase qui commence en 1919 avec la conférence de Versailles. Et donc, le 1er octobre, il y a le Northern Cameroun, c'est-à-dire la partie nord de la zone sous tutelle anglaise,
oui,
qui se rattache au Nigeria, tandis que la partie sud, le Southern Cameroun, qui devient l'Ambazonie, d'accord, qui aujourd'hui est Montagne.
Vous avez intégré aussi l'Ambazonie, vous, dans
comment,
votre...
Non, mais je,
en évolue.
Mais je mets les guillemets, d'accord. Je mets les guillemets.
Ah non, il fallait le préciser.
Merci de me rappeler de préciser les guillemets. Mais j'ai dit, c'est la partie sud qui se retrouve obligée de se rattacher au Cameroun parce que pendant le référendum, la partie nord s'est rattachée au Nigeria. Donc il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas d'anglophones ni de francophones au Cameroun en 1919, contrairement à ce que dit mon voisin. De deux, pourquoi ? Parce qu'on est encore dans, à la sortie de la Première Guerre mondiale avec le démantèlement de la zone coloniale, de l'empire colonial allemand. Et les Français et les Anglais sont sous mandat de la SDN et n'arrivent au Cameroun qu'à partir de 1929.
En fait, ce que vous voulez dire aujourd'hui, c'est que finalement, comment dire, cette distinction entre région anglophone et région francophone est purement artificielle.
L'identité anglophone ne date que de 1921.
Est-ce qu'il existe une identité anglophone
oui,
au Cameroun ?
L'identité anglophone que revendiquent certaines personnes n'existe. Oui, il y a une identité linguistique. Oui. Ils sont anglophones.
D'accord.
Les autres sont francophones.
Il faut le préciser.
Bon, on
pour
ne peut pas aller. On ne peut pas. Oui, le concept d'identité est un concept plurivoque. Le problème, c'est quand
ils sont camerounais ou pas ?
Comment ?
Ils sont camerounais. Quoi.
Bien sûr qu'ils sont camerounais. Et d'ailleurs, tout l'effort que je fais aujourd'hui, c'est de dire que quand on passe de séparatiste à autonomiste, c'est une reculade par rapport à quelque chose quand même qui est allé jusqu'à la mise en place d'un drapeau.
Oui.
Vous comprenez ? Donc, en fait, s'ils ont reculé, s'ils ont commencé à parler d'autonomie,
oui,
ça veut dire qu'ils ont commencé à redevenir raisonnables et à se conformer à cette réalité qui est que...
Très bien.
Et même d'ailleurs, pour terminer là-dessus, quand vous allez sur le plan ethnique, précisément, d'accord ? Vous avez des Bamileke dans la zone anglophone qui se sont réfugiés, pour la plupart, pendant la crise UPC, pendant la guerre civile. Okay, ils sont devenus anglophones. Vous avez des Bétis, vous avez plein de monde qui sont devenus anglophones. Est-ce qu'on va continuer de dire qu'eux, ils font une bande à part ou alors c'est une partie Bon, donc, mon hypothèse, c'est que tout ce qui arrive vient, n'est-ce pas, de l'incapacité de l'État à appliquer dans la lettre les accords de Fumban de 1961 parce que toute l'histoire...
Alors, je vais ouvrir un autre chapitre dans ce débat, Patrick Senganan. Alors, vous soulignez beaucoup dans votre livre l'importance de la question ethnique au Cameroun et vous indiquez que, je vous cite, au Cameroun, on ne parle pas d'ethnie mais de sociologie. Alors, est-ce que dans ce pays qui compte, il faut le rappeler, 230 ethnies au bas mot, est-ce qu'on peut dire que la question ethnique est toujours aujourd'hui au centre de toute chose?
Moi, j'aimerais déjà préciser que le thème, la définition de l'ethnie évolue selon les époques, n'est-ce pas? Parce que si on rentre, si on s'en va à Bamenda, par exemple, alors que les gens de Bamenda ont une culture qui est vraiment identique à celle des Banganté ou bien des Bafoussam, ben, ils ne sont pas désignés comme Bamileke, n'est-ce pas? Ils sont désignés, bon, graphie, autre chose, mais bref. Le concept même d'ethnie précoloniale a évolué. Et puis aujourd'hui, on parle de plus en plus de nouvelles ethnicités. Donc, pour ce qui est des anglophones, du point de vue francophone, évidemment, ils sont ce que j'appellerais une nouvelle ethnicité parce qu'ils ont toutes les caractéristiques du point de vue de leur unité de langue, qui est l'anglais, du point de vue de leur référent, qui est une zone bien précise, etc. Donc, c'est une nouvelle ethnicité. Du point de vue francophone, ils sont considérés vraiment de manière négative, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas francophones, ils sont l'autre des francophones.
Oui.
Et donc, ça va beaucoup plus loin.
Vous voulez dire que la langue détermine une ethnicité globale?
Évidemment, la langue l'a toujours déterminée parce que, par exemple, même ceux qu'on appelle les Bamileke, disons en général, ou bien les Bétis, etc., sont déterminés par une ethnie.
Qu'est-ce que vous entendez dans votre ouvrage par la violence de la question Bamileke? Qu'est-ce que cela signifie?
En fait, j'aimerais continuer là-dessus parce que, étant donné que la constitution de la nation camerounaise, avant la crise que nous avons, c'est-à-dire dont nous parlons, qui nous réunit, je voulais que le Cameroun soit plus ou moins composé d'États, de deux États, disons comme ça. Ce qui se passe, c'est que finalement, le Cameroun se retrouve étant la bataille entre quelques nations bien précises. Et d'habitude, je dis que c'est quatre nations, et on pourrait dire quatre ethnies, nouvelle ethnicité si on veut, qui sont en bataille ou bien qui vivent une expérience spécifique de la violence. Pour ce qui est des Bamileke, évidemment, c'est la guerre civile de 60-70. Et pour ce qui est des... c'est-à-dire qui, de 55-56, avait impliqué les Bassa, etc. Avant, en 84, il y a eu évidemment un massacre des nordistes, qui sont également une ethnie, une nouvelle ethnicité, qui, celle-là, est liée à la géographie et puis à la religion. Les anglophones, qui sont une troisième, entrent dans cette danse macabre avec le génocide qui est en train d'être commis contre eux.
Un génocide, vous dites.
Oui, mais bien sûr, c'en est un. Et dans ce que je n'ai pas mentionné, c'est ce qu'on appelle d'habitude les Bétis ou bien l'Inkwa, du point de vue Bamileke.
Vous parlez d'un génocide, hein, le mot est fort.
Hein. Oh oui, en fait, il y a eu deux.
Non, aujourd'hui.
Non, il y a eu évidemment celui qui a été commis contre les Bamileke, qui a structuré la violence qu'a subi l'Ouest du Cameroun et puis l'espace Bamileke. Et il y a ce génocide qui est commis contre les anglophones, qui en fait nécessite d'abord d'être exprimé avant que d'être analysé, parce qu'il s'agit maintenant d'abord d'écouter les anglophones, tout simplement de les laisser parler pour qu'ils donnent leur point de vue.
Et vous pensez qu'on les entend pas assez?
Non, pas du tout, parce que l'anglais étant universellement la langue dominante, n'est-ce pas? Ils sont entendus partout, du Japon, etc., etc. Et le français étant une langue minoritaire sur la terre entière, au Cameroun, cependant, c'est la langue hégémonique. Ce qui fait que ceux qui parlent de la cause anglophone, du point de vue de l'État, c'est-à-dire de l'hégémonie, s'expriment en français. Et les anglophones, eux, qui d'habitude s'expriment en anglais, ne sont pas du tout écoutés et ne présentent pas leur point de vue. En fait, je vais d'ailleurs dire que je suis le seul qui s'exprime, qui navigue ces deux espaces-là et qui présente un point de vue anglophone avec une certaine tolérance dans l'écoute du point de vue des francophones.
On continue d'en parler, on verra ce qu'en pense le professeur Yemzoué hein, et également Albert Moutoudou de cette question ethnique qui s'invite d'ailleurs au cœur du débat électoral aujourd'hui, préélectoral en tout cas au Cameroun. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Patrice Nganang, Empreinte de crabe. Et je vais aussi, évidemment, pour être très juste, rappeler aussi un des titres des ouvrages du professeur Yemzoué, c'est Identité et primauté d'autrui aux éditions L'Harmattan. Et Albert Moutoudou, à qui je demande d'être patient parce qu'il est au téléphone avec nous depuis Douala. On va le retrouver également après le Flash Info de 19h qui sera présenté dans quelques instants dans ce studio par Salah Eddine Gagou. Et nous reviendrons ensuite pour reprendre le cours de ce débat consacré au spectre de la guerre civile au Cameroun. Nous serons ensemble jusqu'à 19h20 sur la radio africaine. Ne partez pas. À tout à l'heure, à tout de suite.
Africa, le grand débat avec Francis Laloupo.
Le spectre de la guerre civile au Cameroun, nous en parlons avec nos invités, Patrice Nganang, écrivain, professeur de littérature à l'Université d'État de New York. Il publie « Empreinte de crabe » aux éditions Jean-Claude Lattès. Professeur Ange Bergson, Lenja Yemzoué est avec nous, docteur en sciences politiques et en philosophie, auteur de « Les Babichois, parenté, chefferie et résistance aux Allemands dans le sud-est ». Bamileke aux éditions L'Harmattan et au téléphone avec nous Albert Moutoudou, président de l'UPC Manidem, Union des populations du Cameroun, membre de l'Amicale panafricaine, co-auteur de Cameroun, l'indépendance piégée de la lutte de libération à la lutte contre le néocolonialisme aux éditions L'Harmattan. Albert Moutoudou, c'est vers vous que je me tourne. Voici ce qu'on peut lire, on parlait des questions ethniques tout à l'heure. Alors on va revenir à l'actualité hein, avec ce texte publié sur le site cameroonvoice.com et intitulé « Halte à la manipulation de l'ethnie ». On y lit ceci hein, notamment, une fois de plus, la présidentielle s'ouvre sous une odeur, avec une odeur de manipulation de l'ethnie, sous de faux airs de défense de l'unité nationale et de promotion du vivre ensemble, certains protagonistes de la joute électorale agite le spectre du tribalisme sur un ton ratoureux. Ils laissent entendre que, eux, ils supputent, ils insinuent, ils réchauffent les haines recuites entre certaines tribus. Pire encore, ils désignent l'ennemi politique, l'affublent de tribalisme, le jettent en pâture et s'attachent à le présenter comme la figure tutélaire d'un parti n'ayant qu'une vocation clanique ou tribale. Alors le texte se termine ainsi. Hein, ce pays, qui plus est, ceux qui manipulent politiquement la variable ethnique oublie qu'au lendemain du 7 octobre, il faudra gouverner avec l'ensemble des Camerounais. Et le texte rappelle évidemment, je cite également, « Visiblement, nous n'avons pas appris les drames rwandais, congolais ou ivoiriens ». Est-ce qu'il faut s'inquiéter réellement de la montée, je dirais, des thèses ethnicistes aujourd'hui au Cameroun? Qui a intérêt à instrumentaliser la question ethnique chez vous aujourd'hui, Albert Moutoudou?
Qui a intérêt à instrumentaliser la question ethnique? Ben, ce sont toujours les gouvernants qui ont instrumentalisé la question ethnique. D'abord, la colonisation.
Est-ce que ce texte exagère ou alors il reflète réellement ce qui se passe aujourd'hui pendant la campagne électorale?
La campagne électorale, là, pour l'heure, n'est pas centrée sur la question ethnique. Mmh. Vous voyez, de toutes les régions du pays, il y a des gens qui se lèvent pour soutenir tel ou tel candidat. Bon, donc c'est pas la question ethnique. Le thème de votre soirée, à savoir la crise en zone dite anglophone, oui. Ce n'est pas non plus, de mon point de vue, une question ethnique. Point de vue de mon parti, ce n'est pas une question ethnique. Au demeurant, on voit comment c'est parti sur des revendications corporatistes, des revendications sociales que tout le monde peut comprendre. Mmh. Et nous les comprenons très bien, du reste. bon, il y a des mécontentements, il y a des frustrations, il y a des aigreurs. Oui. Bien, on peut discuter de tout cela. Alors, ne mettons pas la question ethnique à toutes les sauces. Mmh. Certes, au niveau des pouvoirs successifs au Cameroun, à partir de la colonisation jusqu'à Biya, oui, bien, il y a une instrumentalisation des ethnies, oui, et particulièrement une instrumentalisation de l'ethnie du président,
oui,
qui doit toujours se retrouver derrière le président.
Mais la pourquoi la question ethnique doit forcément être conflictuelle au Cameroun? Parce qu'avoir un pays qui compte 230 ethnies, c'est pas forcément, je veux dire, ça n'a rien de négatif en soi. Pourquoi elle est toujours abordée cette question sous l'angle conflictuel?
Non, ce sont ceux qui l'instrumentalisent justement qui l'abordent sous cet angle-là. Ce qu'il y a, c'est que le président, les présidents successifs, que ce soit Aïdjo ou que ce soit Biya, disent, ils ne le disent pas évidemment ouvertement, disent à travers leur lieutenant que, bon, attention, si les autres veulent le pouvoir, c'est pour que notre ethnie ne soit pas là.
D'accord.
Bon, c'est un peu un raccourci, le discours. Donc, c'est la mobilisation de l'ethnie derrière le président,
oui,
ou derrière. Or, toutes les ethnies, sans exception, toutes les ethnies camerounaises sont traversées par les mêmes clivages, qui sont principalement les clivages de classe. Dans toutes les ethnies, il y a des riches. Dans toutes les ethnies, il y a une très grande majorité de pauvres, y compris dans l'ethnie du président de la République. Bon, il n'y a pas plus de meilleures conditions dans l'ethnie du président de la République, à part quelques barons, effectivement, qui orchestrent la population pour qu'elle s'aligne derrière le président. Mais il n'y a pas plus de choses bien faites dans la région du président que partout ailleurs.
Oui.
Donc il y a une instrumentalisation de l'ethnie, et elle ne peut être qu'une instrumentalisation de ceux qui ont le pouvoir. Elle ne peut pas être une instrumentalisation de ceux qui sont en dessous. Si ceux qui sont en dessous s'amusent à ce jeu-là, eh bien, bon, ça ne donnera rien. On a pu le voir en Somalie, on a pu le voir au Libéria, on a pu le voir dans plein de pays. Ça ne donnera rien. Si en dessous, on commence à vouloir instrumentaliser l'ethnie pour une question des questions de mécontentement, le mécontentement s'exprime en termes sociopolitiques. C'est clair.
Bon, très bien.
C'est pas en termes d'identité ethnique.
On entend bien.
J'ajoute, et vous l'avez dit avant moi, c'est que nos ethnies sont quand même une richesse. C'est une grande richesse culturelle. Bien, et il faut que cette richesse culturelle, nous ne l'avons même pas encore exploitée. Il faut que nous allions dans ce sens-là. Sauf que nous sommes plus en train, il y a certaines personnes qui gagnent plus dans le côté politique de l'ethnie. Ils veulent politiser l'ethnie. L'ethnie n'a pas cette vocation.
C'est ça.
L'ethnie n'a pas cette vocation.
C'est très clair,
les groupes sociaux ont cette vocation, les groupes sociaux ont cette vocation, ce n'est pas l'ethnie.
Très bien, restez avec nous.
L'ethnie a une charge culturelle, elle a une charge historique qu'il faut valoriser.
Elle peut être un atout pour un pays surtout, en tout cas la diversité peut être un atout. Ange Bergson, Lenja Nyamzoué.
Si vous voyez la richesse des langues dans ce pays, et puis dans cette richesse des langues, vous voyez que vous êtes tout à fait dans l'Est et vous retrouvez des termes de votre langue tout à fait dans l'Ouest, mais c'est quelque chose de terrible. Là vous voyez que nous venons tous du même coin finalement. Et que, bon, l'histoire a un peu éparpillé les gens à gauche et à droite, mais que si nous faisions le travail de retrouver nos origines, ce serait un travail précieux, énorme. Bon, voilà.
Merci.
Pendant ce temps-là, il y a des gens qui cherchent à nous disperser.
Merci.
Si vous le permettez, je suis un peu défavorisé.
D'un mot, parce qu'il faut aller très vite.
Voilà. J'ai entendu certaines choses.
Moi, je peux rester avec vous toute la soirée, si j'en avais évidemment la possibilité.
Bon, premièrement, la France et l'Angleterre et la Grande-Bretagne sont entrés au Cameroun en 1916, en chassant les Allemands, en repoussant les Allemands. Bien. À partir de là, chacun s'est installé dans son périmètre. La France a occupé un plus grand périmètre que la Grande-Bretagne. À partir de là, on commençait donc à se former ce qu'on appelle la zone francophone et la zone anglophone. Donc, c'est à partir de là, mais de la langue seulement. Les populations qui étaient de part et d'autre sont pour la plupart d'ailleurs des populations parentes. Je crois que l'un de vos invités l'a dit tout à l'heure. Chez les Bamileke, on trouve des populations dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone anglophone qui sont totalement apparentées aux Bamileke.
C'est ça.
Y compris avec des termes linguistiques qui se retrouvent de part et d'autre. Bien. Donc, il n'y a pas une naissance d'ethnie à partir du découpage français et anglais.
C'est ça.
Il y a une création de zones d'influence française et anglaise. Bien, cela étant, cette situation a duré à peu près de 1916 à 1961, donc disons, presque près d'un quart de siècle.
Oui.
Évidemment, cela aussi crée une certaine histoire. Et cette histoire-là, ben, nous devons la corriger dans ses effets centripètes, c'est-à-dire des effets qui éloignent les uns des autres.
C'est ça.
Et je termine par ceci que, si vous nous demandiez tout à l'heure quel est le rapprochement qu'on peut faire entre la lutte indépendantiste et ce qui se passe à l'heure actuelle,
oui.
Vous voyez, je vous ai donné ce qui est comme ressemblance. Mais ce qui est comme dissemblance est énorme. Alors qu'au moment de la lutte indépendantiste, le premier mot d'ordre, aussi bien du côté des nationalistes anglophones que des nationalistes francophones, c'était réunification, c'est-à-dire tout le monde ensemble. Aujourd'hui, on entend des échos de séparation. Et c'est assez pénible.
C'est ça. Ce sont les limites du continuum dont on parlait tout à l'heure, évidemment, puisque chaque crise a sa spécificité, hein, bien entendu. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Ange Bergson, Nadia Nyamzoué, c'est dans ce contexte que va se dérouler quand même une élection présidentielle le 7 octobre prochain. Et comment, selon vous, vont se dérouler ces opérations de vote dans les régions dites anglophones?
Mais vous m'invitez là à un exercice.
Non, soyez bref surtout.
Je n'ai même pas commencé que vous me demandez d'être bref. C'est pas grave.
Je vous dis ça,
m'invitez à un exercice de politique fiction. Je ne sais pas m'y faire. Mais ce que je dois vous dire.
C'est pas la politique fiction. Est-ce que vous pensez que les opérations de vote auront lieu dans les régions anglophones?
La question, c'est de savoir.
Ma question, je peux la poser autrement. Est-ce que tous les Camerounais pourront voter le 7 octobre prochain pour élire celui qui va prendre en main les destinées de ce pays?
Ils ont voté. La question reste pour moi la fiabilité des élections.
C'est une question, nous allons consacrer un certain nombre d'émissions à cette élection. Donc, ce n'est pas la question de la fiabilité, c'est la question de
bien,
est-ce que
monsieur,
tout citoyen camerounais pourra se rendre aux urnes,
vous savez,
compris dans les régions anglophones.
Vous savez bien que la réponse est non, parce que ces populations-là sont en déplacement dans les zones dont on parle.
Oui, il y a beaucoup de réfugiés.
Les gens ont migré parce qu'effectivement, il y a des poches d'insécurité. Mais ce que je dois vous dire, c'est simplement quel intérêt l'État avait à organiser ces élections-là sans avoir soldé la crise.
C'est une vraie question que vous posez.
Voilà. Donc, la question, c'est la politisation, de l'ethnicité, parce que l'ethnie est abandonnée par l'anthropologie dans les années 20. Dans les années 30...
Ne le remontez pas, s'il vous plaît.
Si vous
ne remontez pas la préhistoire, parce que sinon,
si
on ne va pas s'en sortir.
Si vous me laissez
c'est passionnant, mais il nous reste 5 minutes d'émission.
Vous voyez, vous en prenez une, là,
déjà. C'est pas moi.
Vous m'interrompez. J'essaie d'aller vite aussi. Donc, je vous dis, dans les années 30... Les ethnies dont on parle aujourd'hui ont été créées dans les années 30.
Oui.
Vous parlez de manipulation des ethnies, j'ai voulu dire, il y a la création des ethnies. Les Bamileke dont on parle, ça vient du Yemba, Bamleke, oui. Les habitants des Vallons. C'est un identifiant topologique, c'est pas un identifiant ethnique. Donc on a réussi à créer l'ethnie des anglophones, l'ethnie des nordistes, l'ethnie des Bamileke et tout le reste. Et aujourd'hui, on ne réfléchit qu'autour d'un concept qui n'a pas de réalité matérielle. Donc à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a un épuisement de l'État classique, de l'État néopatrimonial, qui pense que son rôle, c'est de redistribuer à tous les groupes ethniques les biens qu'ils n'auraient pas si les autres étaient au pouvoir.
C'est ça, oui.
Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir à quel moment on va passer de la démocratie électorale au Cameroun à la démocratie substantielle qu'on voit déjà dans des pays comme le Ghana ou comme le Sénégal. La vraie question technique, c'est celle-là.
Très bien. C'est très clair, oui, c'est très précis. C'est une invitation d'ailleurs à réfléchir sur cette question qui est une question fondamentale. Patrice Nganin, même question. Comment ça va se passer? Comment vont se passer les opérations électorales dans les régions anglophones que vous connaissez si bien?
Mais je crois déjà qu'il y a une double question. La première, c'est l'ethnie, n'est-ce pas? C'est la tribu.
Ne revenez pas à l'ethnie.
Non, c'est essentiel parce que le Camerounais vit la tribu toujours de manière victimaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une analyse.
Pourquoi on parle des tribus d'ailleurs au Cameroun? Il y a des tribus aujourd'hui.
En fait, j'en ai spécifié 4.
Oui.
Je peux les répéter, mais ce n'est pas nécessaire.
Oui.
Donc, dans les vies de manière victimaire, il n'y a pas une analyse qui permet de voir leur structuration, leur manière de fonctionner, comment est-ce qu'elles peuvent être... la base d'association, n'est-ce pas, pour en vivre ensemble ou bien pour une division si nécessaire. Et donc, de ce fait, on arrive à l'accusation ou bien à l'insulte lorsqu'on parle de l'ethnie. Je crois qu'il est nécessaire de faire un travail intellectuel qui n'a pas encore été fait.
Très bien.
Et maintenant, pour ce qui concerne l'élection,
réponse brève.
Elle n'aura évidemment pas lieu dans la région anglophone. Pourquoi déjà? Parce que la campagne électorale n'a pas lieu dans deux régions. Il a été dit, je crois, par deux personnes là, que tous les Camerounais étaient engagés dans le processus électoral. Ce n'est pas vrai. Il y a deux régions, les régions anglophones, où aucun candidat ne fait campagne, où aucun candidat n'a même le courage.
Quelle sera la validité de cette élection, des résultats
déjà,
en tout cas, si les citoyens ne participent pas à cette élection.
Non, 30% des Camerounais, pour participer à une élection, doivent avoir leur tête sur les épaules. Or, des anglophones ont des têtes coupées, n'est-ce pas, sont jetés dans des rivières, sont exécutés, des villages sont brûlés, les gens sont des réfugiés. Ça dit vraiment, on a un mouvement de
population. Quelle est la validité de cette élection, selon vous?
Près de 300 000 Camerounais qui sont chassés, qui sont au Nigeria maintenant. Et donc, de ce point de vue, il est impossible de compter même des voix parce que, comme j'ai dit, pour voter, il faut déjà avoir une main. Or, des mains sont coupées, etc. Donc là, c'est une situation de violence extraordinaire. C'est une situation de guerre civile. C'est une situation
parce que vous parlez, vous en étiez au génocide tout à l'heure.
Non, je suis en train de décrire ce que je reçois comme image, comme récit tous les jours. C'est-à-dire, je suis engagé dans ce conflit. C'est-à-dire, je suis en fait en train de mener une campagne contre l'élection sur la base de cela, pour qu'il y ait zéro vote en 2010, c'est-à-dire le 7 octobre.
Ce qui va jeter un sévère discrédit sur cette élection, finalement.
Ce serait en fait la conclusion de ce qui est nécessaire, parce que l'élection déjà est entièrement grotesque. C'est-à-dire, comment imaginez-vous qu'il y a où en vote alors qu'on est en train de tuer à Bamenda? Et ceux qu'on tue, ce sont les anciens militants du STF. Comment imaginez-vous qu'il y ait élection alors qu'à peu près 1000 anglophones sont en prison? Comment imaginez-vous qu'il y ait élection alors que des Camerounais, 49, ont été arrêtés au Nigeria et ont disparu et on ne sait même pas où ils sont? Comment imaginez-vous que l'on puisse voter alors qu'une partie du Cameroun est à feu et à sang? Donc déjà là, il faut se poser la question de savoir quelle est la moralité même soit de l'électeur ou bien des politiciens qui osent même faire campagne uniquement avec les francophones quand les anglophones sont en train d'être génocidés.
Dernière question, Albert Moutoudou, rapidement, comment dire, quel peut être l'impact des résultats de cette élection présidentielle à laquelle vous participez sur la résolution de cette crise dite anglophone?
Nous ne participons pas à cette élection pour la raison simple que c'est une élection présidentielle et que l'élection présidentielle est une. Ça veut dire que le président doit avoir été élu, ou au moins le vote doit avoir eu lieu dans toutes les parties du pays. Bon, chez nous, ça s'appelle les régions, peu importe, dans toutes les parties du pays. Imaginez donc un président, après le scrutin, qui aura été élu seulement dans 8 régions sur 10. Dans les deux autres régions, le vote aura eu lieu carrément avec accompagnement des baïonnettes pour que certaines personnes puissent voter.
Alors, le mot, quelle serait la validité des résultats de cette élection dans ces conditions?
C'est le président de la République qui sera élu, qui se met lui-même dans une ambiguïté juridique. Dans le sens qu'un président doit être un président de tout un peuple. Qu'il n'ait pas été élu par tout le monde, cela est quelque chose, mais que les gens n'aient pas pu voter dans certaines parties au point de disqualifier l'élection de ce président-là, eh bien, un président qui va dans ce sens-là se met dans une ambiguïté. Alors, pour ne pas se mettre dans une ambiguïté juridique, que faut-il faire? Il faut commencer par le commencement. La crise que nous avons dans la partie du sud-ouest et du nord-ouest est une crise qu'on peut résoudre par le dialogue.
On n'en est plus là.
Il faut commencer par là. C'est-à-dire que si nos dirigeants sont incapables du dialogue, alors il faut dire qu'ils ne sont pas des dirigeants, tout simplement.
D'accord, on va rester sur cette parole.
Quand on interpelle, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais voyez la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2016, le président n'a pas daigné faire quelque geste que ce soit de ce côté-là. Tour à tour, il a envoyé ses ministres dans une situation aussi grave qui met la stabilité du pays en péril. Un président de la République monte dans l'avion et va parler à ses compatriotes.
Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Déjà, le président ne séjourne pas régulièrement dans son pays. Donc, voilà. Merci, Albert Moutoudou. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. William Clément Mananga nous a écrit. Merci beaucoup. Je n'ai plus le temps de lire les messages de nos auditeurs. Johnson Bach également. Merci également. Amilcar Amado qui vous envoie un message sympathique. Patrice Galland qui dit « Je suis à la page 109 de l'ouvrage Empreinte de crabe et j'entre dans son livre comme dans un fauteuil. Amitié à Patrice Ganang. Voilà, ça vous fait plaisir, ça, hein, pour votre ouvrage. Donc, je rappelle le titre Empreinte de crabe aux éditions Jean-Claude Lattès. On peut également lire de Patrice Ganang La révolte anglophone, essai de liberté de prison et d'exil, paru chez Théam Édition. 15 ouvrages publiés déjà de Patrice Ganang. Nous avons également reçu dans cette édition Ange Berson Lenja Yemzoué, qui va rester un peu sur sa fin, bien sûr, docteur en sciences politiques et en philosophie. Il est l'auteur de Les Babichois, parenté, chefferie et résistance aux Allemands dans le sud-est Bamileke, aux éditions L'Harmattan. Et puis, il y a cet autre ouvrage que j'avais, on me l'a pris d'ailleurs, c'est l'autre ouvrage de professeur Yemzoué, Identité et primauté d'autrui, le philosophe Merleau-Pontienne de la philosophie, pardon, Merleau-Pontienne de l'hospitalité, paru aux éditions L'Harmattan. Et merci encore à Bert Moutoudou qui est avec nous depuis Douala au téléphone, président de l'UPC Manidem, Union des populations du Cameroun, membre de l'Amicale panafricaine, co-auteur de Cameroun, l'indépendance piégée de la lutte de libération à la lutte contre le néocolonialisme aux éditions L'Harmattan. Bien sûr, on est loin d'avoir épuisé ce sujet qui est complexe évidemment. C'est aussi, je dirais, l'histoire en mouvement puisque nous parlons d'une crise qui est encore très active. On va vous remercier, Patrice Ganang, parce que vous n'habitez pas ici, évidemment. Vous venez des États-Unis, vous habitez aux États-Unis. Bon retour donc là-bas. Merci. Et puis on continuera, bien sûr, à suivre votre actualité. Ange Bergson, Lenja Nyemzoué, vous êtes ici à Paris. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir dans ce studio. Et merci aux auditeurs, évidemment. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Grand Débat qui sera consacrée à la RD Congo. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Et encore, essayez.
Le Grand Débat avec Francis Laloupeau, c'est également sur africa1.com.